L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à 17h.
Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonjour à tous, bienvenue sur Aligre FM dans l'émission Jazzland et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Zimmermann. Bonjour Daniel.
Et bonjour Lionel.
Alors on se vouvoie dans cette émission, alors on se connaît hein, mais on va se vouvoyer. Cher Daniel, donc vous venez nous voir parce que vous avez une actualité avec votre complice Eric Seva, un album qui est sorti le 23 août dernier, mais enfin c'était avant-hier hein.
C'était à la rentrée, oui.
Voilà, c'était un album de rentrée des classes, n'est-ce pas ? Donc cet album s'intitule « Deux souffleurs sur un fil », très beau titre, poétique.
Oui, puis ça correspond
on
tout à fait
à... On pense à du trapèze un peu, à quelque chose dans un cirque, là, de funambule un peu.
Ben, nous, c'est ce qu'on ressent quand on joue, en tout cas, dans ce contexte.
Donc c'est un projet en duo saxophone, baryton, trombone. Alors là, c'est quand même... est-ce qu'il y a un autre équivalent ? Est-ce que ça a déjà existé, ça ?
Alors non, je ne crois pas.
Ah, vous êtes les premiers, vous êtes des précurseurs.
Mais même, c'est même extrêmement rare, les duos d'instruments monophoniques. Donc ça va beaucoup plus loin. Hein. J'ai retrouvé la trace d'un disque de Likönitz et Albert Mangelsdorf. Donc là, c'est saxophone,
ah, oui,
alto.
Ouais.
Qui d'ailleurs supporte mal la durée, à mon humble opinion, même si les deux jouent magnifiquement bien, mais c'est très très peu, enfin c'est un peu toujours la même ficelle. Voilà.
Il faut dire une chose très importante, c'est qu'il y a une complicité qui vous lie Eric Seva. Alors j'ai retrouvé cet album, là, Nomade Sonore, qui date de 2015. Et je crois que c'est le premier témoignage discographique de votre collaboration.
Tout à fait. C'était le quartet d'Eric, qui a beaucoup joué d'ailleurs.
Oui, vous avez beaucoup tourné. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de vous voir sur scène, je m'en rappelle très bien, donc il y a 10 ans. Quoi, hein. Et donc, en fait, c'était la même chose, mais avec une rythmique, ce qui change quand même la donne.
Pas du tout la même chose.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, parce qu'il y avait Bruno Schorp à la contrebasse et Mathieu Chazarinck à la batterie.
Oui.
Et du coup, là... Hop, on enlève la rythmique.
Voilà, on l'assume nous-mêmes. Non, mais c'est un autre projet, hein. C'est pas qu'on a enlevé la rythmique, c'est vraiment autre chose.
Oui, oui, alors puis il y a beaucoup de reprises. Du coup, là, il y avait beaucoup de compositions d'Eric, hein, qui est un super compositeur.
Alors, sur le duo, déjà, c'est un projet partagé, alors que ça, c'était quand même le groupe d'Eric.
Oui, puisque vous avez composé d'ailleurs deux morceaux pour ce nouveau projet, de souffleurs sur un fil.
Non, mais en fait, on a composé la moitié des morceaux, quatre
oui,
morceaux.
Oui, oui, puis il y a des reprises il y a deux reprises de Piazzolla, il y a une reprise de Duke Ellington. Et ben c'est tout. Et le reste c'est des compos. Voilà.
Non, il y a aussi les valseuses de Stéphane Grappelli.
Ah bah oui, évidemment, la musique du film qui c'est drôle parce que on va pas l'écouter. J'ai sélectionné quelques morceaux. Là on vient. Oui, faut quand même dire à nos auditeurs que le morceau qu'on a entendu juste avant qu'on parle, c'est évidemment le Libertango d'Astor Piazzolla, ce qui est le morceau qui ouvre l'album. Alors les valseuses, je me disais en réécoutant le disque, je me disais mais ce film il pourrait pas sortir aujourd'hui. C'est marrant, il a 50 ans ce film et ça coincerait quand même. Hein.
Ouais, on dit souvent ça, mais vous savez, j'entends à la fois des choses très audacieuses des fois. Hein.
Non mais c'est pas une histoire d'audace, c'est une histoire de féminisme. C'est pas la même chose, c'est pas une histoire d'audace.
Ouais, non évidemment, mais
c'est de ça que je parle.
Non non, mais il y a des gens qui oui ok, admettons.
Non, mais bon, on a changé d'époque.
Ça se discute, parce que c'est les films qui montrent des méchants, si on se met tous à les supprimer, parce que bon, c'est quand même des personnages qui, même s'ils ont des aspects sympathiques, ont des aspects très sombres.
Oui.
Voilà, enfin bon, c'est un autre débat.
Non, mais ça, c'est le talent de Bertrand Blier de montrer des personnages sympathiques et sombres, effectivement. Oui. Et violeurs, éventuellement. Bon, bref. On va changer. On n'est pas là pour parler de cinéma, mais donc c'est vrai que cette musique de Grappelli était très belle. Et du coup, c'était intéressant de l'arranger pour vos deux instruments.
Finalement, c'est une musique qui n'a pas un énorme rapport avec le film, puisque au contraire, on prend le contre-pied. C'est d'ailleurs le jeu qu'a joué Blier. Et nous, notre propos, c'était de s'inspirer de musique populaire, que ce soit dans nos compositions, ce qui est. Alors, on est vraiment dans des styles qui ont toujours été joués par Eric, la valse musette, le tango, etc. Moi, c'est des styles que j'adore, mais que j'ai moins pratiqué au niveau de la composition. D'ailleurs, mes compositions ne sont pas vraiment dans ces styles-là.
Vous êtes un fan de blues. Vous êtes un fan de musique noire, Daniel, de blues, de soul,
De oui, bah après, Eric adore ça aussi, et oui, moi j'adore oui, la sûr. Musette, etc. Mais oui, en tout oui. cas, au niveau de l'écriture, on s'est recentré un petit peu sur toutes ces musiques populaires, et puis les morceaux qu'on joue sont... Enfin, c'est des musiques populaires, mais de tradition. Les morceaux qu'on joue sont vraiment... qu'on reprend, les reprises sont vraiment issues de ces musiques-là, comme les Piazzolla.
Et alors, je me posais une question, puisque l'album, il y a 8 titres, je me demandais si en concert, vous en joueriez plus.
Ça dépend, oui, un petit peu quand même.
Ouais, on a 11 titres. Il n'y a aucun morceau de Nomade Sonore. Il y a une super valse là-dedans, avec un titre génial, ça s'appelle Rue au fromage.
Absolument.
J'adore ce morceau.
C'est là qu'on a enregistré l'album en duo.
Elle s'appelait La Rue au fromage.
L'album en duo a été enregistré chez le père d'Eric, dans le Dancing. Dans lequel Eric jouait quand il était adolescent et même enfant.
Ah bah c'est
et
super.
C'était Rue au fromage à Roisey-en-Brie.
Alors on va écouter tout de suite un deuxième titre de cet album qui est une reprise de Duke Ellington, Caravane. Alors pourquoi Caravane ?
On a essayé. Ouais. En fait, c'est venu complètement par hasard. Un début de répétition, Eric s'est mis à jouer une ligne de basse. Et moi, au bout d'un moment, j'ai embrayé sur ce thème. Voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà.
Alors moi, je voudrais préciser à nos auditeurs et auditrices tout de même que dans l'orchestre de Duke Ellington, le saxophone baryton et le trombone sont toujours quand même mis en évidence dans les arrangements de Duke. Il faut dire qu'il avait des sérieux clients dans son orchestre.
Absolument.
Et du coup, c'est peut-être pas hasard, ça aussi. Je ne sais pas.
Oui, après, dans notre...
C'est un tromboniste qui a composé Caravane, Juan Tizol.
Tout à fait. Dans notre souhait de jouer des musiques populaires, bon, là, tant qu'à reprendre un titre de jazz, on ne pouvait pas faire plus populaire.
Non, de toute façon, ce thème, tout le monde le connaît. Et votre arrangement, vous allez pouvoir en juger, est absolument superbe. Caravane. Thank you.
Vous écoutez Allegre FM 93.1
sur la bande FM et sur le site internet d'Allegre FM.
On vient d'entendre une superbe version de Caravane en duo par Eric Seva au saxophone baryton et Daniel Zimmerman au trombone, extrait de l'album Deux souffleurs sur un fil qui est sorti à la fin du mois d'août. Alors, cher Daniel, qui écrit les arrangements? Comment ça se passe cette collaboration pour aboutir à ce qu'on vient d'entendre là?
Eh ben, en fait. Je pense que si c'est pas monotone et que c'est assez varié, c'est qu'il y a des arrangements qui ont été écrits par Eric, d'autres par moi, et d'autres qu'on a fait sur le tas ensemble. Donc, à chaque fois, il en ressort des choses un petit peu différentes.
D'où la variété du...
Voilà. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que, par contre, c'est très écrit pour un duo. Y a évidemment des moments d'improvisation qui sont assez intenses pour nous, mais malgré tout, je pense que c'est en majorité écrit ce qu'on joue.
D'accord, mais vous avez des partages ou vous avez tout en tête?
Non, on a pas question de partition entre nous et le public sur un répertoire pareil.
Donc vous avez tout en tête alors.
C'est une musique intimiste et où on partage vraiment quelque chose avec les gens, avec beaucoup de proximité. D'ailleurs, on a plusieurs fois joué dans des églises, dans un temple protestant. Voilà.
Ah oui, oui.
Et donc, voilà, on veut être le plus près possible des gens qui soient quasiment dans notre pavillon.
D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, alors en fait, ce qui est intéressant, puisque vous êtes deux instruments qui chantent, on va dire, parce qu'en fait, moi, je trouve que quand on est souffleur quelque part, on est chanteur, en particulier quand on est tromboniste. Vous avez fait récemment un album sur des chansons de Serge Gainsbourg où vous chantez avec votre instrument les thèmes, les mélodies de Gainsbourg. Et c'est quelque chose. Le chant, c'est quelque chose qui vous parle.
À beaucoup, moi j'ai même du mal honnêtement, à m'intéresser vraiment beaucoup aux musiques où il n'y a pas un instrument, soit du chant, soit un instrument qui vraiment
prend
la place du qui chante.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc un soufflant ou certains guitaristes. Voilà.
Alors là, ce qui est passionnant, c'est que vous avez, puisque vous êtes deux, vous partagez la tâche. Alors il y en a un qui fait la mélodie et l'autre qui s'occupe de l'harmonie et du rythme. Et à chaque fois, mais ça change, c'est jamais le même. Et dans le même morceau, ça bascule d'ailleurs.
Oui,
ça,
alors.
C'est assez intéressant parce qu'effectivement, vous pouvez gérer l'harmonie avec le trombone ou avec le sax baryton.
Oui, alors il y a l'évidence qui est qu'il y en ait un des deux qui fasse le rôle de la basse. Mais il y a aussi le fait que un instrument accompagne en essayant de suggérer les harmonies, en faisant du contrepoint,
voilà,
etc.
C'est ça, voilà, oui.
Donc ça, c'est beaucoup aussi dans l'écriture. Et quand on improvise, ça nous arrive d'être solistes tous les deux en même temps. Donc on improvise sur rien. Là, il n'y a plus de fil.
Ah bah oui, mais là, c'est une vraie...
Il y a un fil dans
notre broderie.
Tête.
Non, mais là, c'est une broderie parce que vous avez su, parce que vous êtes quand même très proches, vous êtes très amis, vous jouez ensemble depuis 10 ans. Et il y a quelque chose qui fait que les deux sons d'un instruments s'entremêlent et c'est vraiment magnifique ce qui se passe. Vraiment, c'est une broderie de haut de gamme.
Ben nous, on ressent quelque chose de commun. On a ressenti dès la première fois quelque chose de commun au niveau du langage et puis au niveau de la réactivité aussi et au niveau du son. Donc voilà, si ça,
oui, vous avez créé
si ça
un
transparaît,
son.
Tant mieux.
Ah non, vous avez créé un son, c'est incroyable. Et alors, ce titre, Deux souffleurs sur un fil, c'est vrai qu'on est, en équilibre, un petit peu comme des acrobates sur un fil. Mais vous tombez jamais. On sent que c'est fragile, hein, mais vous tenez bien le truc très haut, là-haut, et vous tombez pas.
On est pas mal tombé au début quand même. Hein. Ça a pris
un peu de
temps.
Vous vous relevez vite.
Oui. Maintenant, on essaye de plus tomber.
Alors, vous avez écrit deux compositions donc, pour ce disque. Alors, on va en écouter une. Alors, elle est très longue, donc j'en ai extrait qu'un. Vous me pardonnerez, j'en ai extrait que 3 minutes. Elle s'appelle Méditation profane. Alors, expliquez-moi, parce que c'est ce titre, Méditation profane. Donc, ça prouverait que vous n'êtes pas très croyant, je ne sais pas.
Non, absolument. En fait, c'est un morceau qui est inspiré de la musique gnawa, donc dans son aspect méditatif parce qu'il y a une partie lente, et dans son aspect trance, plus tard. Et moi, j'ai joué ces musiques pas mal avec des musiciens marocains et, avec, et notamment par l'intermédiaire de Karim Ziad. Ça m'a beaucoup marqué. Et quand je suis allé au Festival d'Essaouira, où j'étais soliste invité pendant l'ensemble du festival avec plein de maîtres, on m'a parlé de ce débat. Peut-on jouer cette musique qui a aussi une connotation religieuse, qui est reliée à la religion de manière profane? C'est un débat qui agite les musiciens là-bas.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, moi, évidemment, si je m'inspire de cette musique, ça peut être que profane.
D'accord. Voilà. On va écouter justement un passage plutôt trans de ce méditation profane. Alors cette méditation profane, mais là, le passage trans, le passage gnawa hein, que j'ai choisi, ça vous convient
au
ce
début
passage-là?
C'est gnawa aussi, mais bon, c'est pas totalement gnawa, évidemment, on peut pas... Bon, ça arrive qu'il y ait du trombone dans la musique gnawa, je l'ai appris là-bas.
Ah bon un... Ah ouais, d'accord.
Mais du saxophone, pas trop de ce que j'ai vu.
Super, bravo pour cette composition, et moi j'aimerais... J'ai pas encore eu l'occasion de vous voir sur scène, mais j'attends avec impatience. Peut-être que vous pouvez nous donner des dates du duo.
Mais tout à fait, alors avec le duo, on joue le 30 novembre aux ateliers Sevin d'Oering avec le Jam à Marseille.
Oui.
Le 10 janvier à Saint-Affrique dans l'Aveyron au Petit Carré d'Art. Le 2 février à Jazz & Co à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et le 16 février à Paris au 38 Rive Jazz Club.
Ah, au 38 Rive.
Voilà.
Bon, je note la date, je serai là. Ouais, vraiment. Là, au 38 Rive, vous n'aurez pas besoin de micro, a priori. Hein.
Non, là, c'est sûr que non.
Hein, parce que c'est une petite salle, une cave voûtée.
Oh, j'ai déjà joué amplifié là-bas, d'ailleurs. Mais...
Ouais, non, mais là, il n'y a pas besoin, non. Ça sonne terrible. Alors, j'imagine que ça doit être épuisant, les concerts, parce que vous jouez tout le temps, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas 5 minutes, même pas 10 secondes de repos, là, à chaque
c'est
fois.
C'est très physique, ouais. C'est très fatigant, hein, pour Eric aussi, mais pour moi, c'est, les instruments en bouchure, ce n'est pas fait pour ça. Hein.
Ouais.
Ce n'est pas fait pour jouer aussi longtemps,
oui.
Sans s'arrêter. regretter, mais bon...
C'est pour ça que Miles Davis, qui a longtemps joué en quartet, un seul coup, il s'est dit, tiens, je vais prendre un saxophoniste volubile comme John Coltrane, comme ça, ça va me permettre de me reposer un peu pendant qu'il joue.
Enfin, il pouvait déjà se reposer pendant les sauts de piano et de contrebasse.
C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est le problème des quartets, hein, des quartets de trompettistes ou de trombonistes, c'est qu'on est, voilà, on est amené à jouer quand même plus souvent. Mais là, oui, c'est... Donc, c'est pour ça aussi que c'est sur le fil, parce qu'il y a une exigence et une concentration, j'imagine, terrible, quoi.
Ouais, ouais, on est très, très, très concentré. J'ai jamais été aussi concentré en jouant.
Alors, je voulais qu'on parle d'une autre collaboration avec Eric Seva, qui est surtout un album qui est sorti cette année 2024. C'était en début d'année, puisque je crois qu'il est sorti au mois de février. Donc ça fait pas, ça fait 9 mois, quoi, on va dire. Et il s'appelle Frères de Song. J'adore ce disque. Donc c'est un disque blues soul, on va dire, hein, avec un chanteur noir américain qui s'appelle Michael Robinson, mais qui vit à Paris. Et ce disque, il est étonnant parce qu'on est dans le blues et la soul, sauf que l'instrumentation. C'est une instrumentation de jazz, puisque il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse. C'est quand même étonnant pour du blues. Et donc, il y a saxophone, trombone, clavier et batterie.
Ouais, c'est de la et soul, voilà, mais avec des choses alors, très originales. Bon, moi, la première chose qui m'a étonné, c'est qu'Eric puisse écrire d'aussi belles chansons, parce que c'est quelque chose de spécial d'écrire des chansons.
Magnifique chanson. Ouais.
Voilà, donc avec des mélodies très originales, mais très, très, très entêtantes et vraiment très, très inspirées. Et puis, effectivement, il y a ce... Alors, bon, nous, on fait quand même un peu la section cuivre, mais à la fois, on fait un petit peu les solistes aussi de jazz avec du contrepoint. Et bon, évidemment, c'est trombone baryton la plupart du temps. Donc ça, c'est déjà une section cuivre assez spéciale. Et puis après, c'est Christophe qui fait la basse au clavier. Donc,
oui, Christophe, il est incroyable. Il a tous les talents. Christophe Cravero, voilà. Il joue du clavier, il joue du violon. Et là, il a le rôle de bassiste avec son clavier, quoi.
Ouais. Et puis après, on a un vrai chanteur qui porte cette musique-là, puisqu'il est de Chicago, Michael Robinson.
Alors, ce chanteur, il est vraiment singulier, parce que souvent, les chanteurs de blues ont une voix grave qui va vers le bas, qui va vers la terre, j'ai envie de dire. Et lui, il a une voix super aiguë qui monte vers le ciel. Et du coup, c'est très, très étonnant. Et ça donne une fraîcheur à quelque chose d'assez singulier.
Ouais, ouais, bah, c'est très fin, ouais. Sa voix, sa manière de chanter, bah, comme lui d'ailleurs.
Et bah, on va écouter tout de suite le morceau qui porte le titre de l'album, Frères de Song. Since for so long we're singing our song, and the music it sings to carry me along. Being red or blue, the music always plays, 'cause today and all tomorrow the music stays. When it starts to play, you can feel it in your soul, as the music it sings inside of you. It's a great ballet of passing emotion. Yesterday and not tomorrow, the music stays.
Brothers of song, 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 brothers of song. Come along with me and play in the disciple adventure. Come along with me and play, just living in the now. Come along with me and play, feeling together. Come along with me and play, hearing the sound. Come on with me and play, where this can take us. Come along with me and play, living in the now. Thank you.
Aligre FM 93.1.
Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Alors on vient d'écouter Frère de Song, tiré donc d'un album d'Eric Seva avec le chanteur Michael Robinson et avec bien sûr Daniel Zimmerman au trombone. Là on était vraiment dans le... Alors c'est de la soul, c'est du blues, comment vous qualifieriez ça, Daniel?
Ouais, moi je dirais de la soul, mais avec plein de petites choses spéciales.
Et donc, c'est une musique que vous adorez. Moi, je vous connais bien. Je sais que vous avez une affection particulière pour toutes les musiques noires, d'ailleurs. Hein. Le blues, le jazz, la soul, le funk, le reggae.
Oui, en tout cas, j'ai une affection pour beaucoup de musique, mais ça, c'est mes racines. Et quand j'écris, je vais vers ça, oui.
Ouais, ce côté blues quand même, hein, ce côté...
Écouté ça tout petit, en fait.
Mais ça s'entend. Et puis là, c'est vrai que du coup, c'est magnifique de jouer derrière ce chanteur-là, parce que ça fait une deuxième voix, quelque part, avec Eric, même une troisième voix.
Ouais.
Alors, comment ça se passait, les concerts
Déjà, on varie beaucoup aussi les sons avec Eric. Comment ça se passait? Voilà, de toutes les manières, c'est des chansons, sauf qu'Eric et moi, de temps en temps, on prend la parole, soit comme soliste, mais plus généralement, comme dans un quartet de jazz, en fait. Avec des thèmes, du contrepoint, et tout ça, ça se succède. Ça se mélange très bien, je crois.
Et le fait de jouer sans basse, du coup, avec Christophe au clavier, il n'y a pas de souci, quoi.
Ça, il n'y a pas de souci.
Et lui, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il a que deux mains, mais on a l'impression qu'il en a trois, quand même.
c'est un petit phénomène. Hein,
Christophe Cravero.
Et Julie qui groove à la batterie.
Julie Sori.
Qui adore ça.
Alors, Julie Sori, qui est la batteuse de ce groupe, et qui, elle, a vraiment ce groove de la Nouvelle-Orléans, hein, complètement, quand même. Hein.
Le funk aussi, Julie. Beaucoup de gens croient que c'est une batteuse de jazz, mais pas que, loin de là, elle adore le funk.
Non, je trouve que c'est un projet vraiment singulier, parce qu'il n'y a pas d'équivalent à ça. Encore une fois, vous innovez avec Eric, là, dans un terrain qui pourrait être balisé, on fait du blues ou de la soul, mais non, il y a cette instrumentation particulière, il y a cette voix aiguë, enfin, on est dans un truc vraiment étonnant, inclassable, et j'adore ça, moi. On peut pas le mettre dans une case, vraiment.
Moi, je crois beaucoup à ça, ouais. Ça fait partie des choses qui m'intéressent quand j'écoute, c'est dans mes critères.
Alors, Michael Robinson, il est parolier aussi, puisque ce sont des chansons. Alors, ça raconte quoi, cette chanson Frère de Song?
Je ne sais plus.
Bon, d'accord, ok, c'est pas grave, Daniel.
Celui-là, je ne sais plus.
Alors, on va écouter un deuxième morceau extrait de ce disque qui s'appelle Transit Paris-Chicago. Donc là, ça parle parce que lui, il est de Chicago.
Oui.
Et maintenant, il est installé à Paris. Donc, il raconte un petit peu sa trajectoire, en fait, personnelle, non?
Oui, c'est Transit Paris-Chicago, c'est un transit entre Paris et Chicago.
Il n'est pas en transit intestinal, soyons sérieux tout de même.
Hein. On est à la radio, enfin.
Oui, voyons. Il raconte sa vie, hein, c'est ça, le passage d'une ville à l'autre, parce que ça fait combien de temps qu'il habite à Paris?
Oui, puis le voyage, d'une manière générale, parce que c'est la vie des musiciens aussi. Hein,
ouais.
Donc, voilà.
Ah oui, ça parle de ça aussi. Mm. Bon, on va écouter tout de suite Transit Paris-Chicago.
In a place you've never been. Yeah. Moving on to a place unknown. Spaces never seen. Familiar faces in a place you've never been.
Vient d'entendre Transit Paris-Chicago, donc une composition d'Eric Seva sur des paroles du chanteur noir américain de Chicago, Michael Robinson. Et là, on entendait un trombone wah-wah, n'est-ce pas, Daniel Zimmerman ?
Absolument.
Et vous aimez bien avoir des effets, de faire quelques effets comme ça sur le trombone ?
À vrai dire, pas tant que ça. Il n'y a que la wah-wah que j'utilise. J'aime bien les effets organiques. Donc, j'aime bien les sourdines.
Sourdines, oui. Alors là,
Je me suis penché sur les effets. Je me suis retrouvé à jouer des solos de guitare au trombone, en moins bien, évidemment. Et je me suis dit, je ne vois pas l'intérêt. Nous, on a des effets acoustiques. Et utiliser, autant ressortir, notamment, je joue des sourdines qui sont un peu oubliées depuis les années 30.
Bah justement, on parlait à l'heure de Duke Ellington. On parlait de Duke Ellington, et c'est vrai que dans les orchestres de Duke Ellington, le trombone est presque toujours avec des sourdines. Cette fameuse effet jungle. Hein,
absolument.
Il est amené alors par quelle sourdine, celle-là ?
Oh, bah, y en a beaucoup. Hein. Ouais. Y a la Pixie qui est la plus caractéristique de ce style. Mais moi, j'utilise par exemple la Clairmute ou la Meloa, qui sont des trucs oubliés et qui datent un peu de cette époque-là. Mais en fait, avec une petite réverb et dans un contexte électrique, ça marche très très bien. Ça donne complètement autre chose.
Oui, puis il y a une chaleur avec ce son. Et là, qui colle. Donc là, c'est l'effet wah-wah, donc c'est différent. Mais moi, je suis très très séduit par ces morceaux de Michael Robinson et d'Eric Seva, parce qu'il y a un groove, mais c'est un groove léger, c'est un groove élégant, c'est un groove pétillant. Il y a quelque chose de très singulier quand même. Hein.
C'est ça.
On n'est pas dans un truc lourdeau, quoi. Hein. On n'est pas dans le funk, ça peut être un peu lourdeau par moment. Moi, j'adore ça, hein, mais ça, des fois, ça peut être un peu maladroit ou un peu surchargé, disons. Là, il n'y a pas de surcharge du tout. Hein. On est quand même dans un truc aérien et élégant, et c'est magnifique. Alors, on va passer à un troisième projet, parce que Daniel Zimmerman, il a énormément de projets, il travaille beaucoup, et tant mieux. Alors, donc, il a sorti, il y a exactement 2 ans, puisque je vois la date 18 novembre 2022, Donc c'est il y a exactement pile 2 ans, un album en hommage à Serge Gainsbourg qui s'intitule « L'homme à la tête de chou in Uruguay ». Et ce projet a beaucoup tourné, a eu beaucoup de succès, il continue de tourner. Et d'ailleurs, vous allez nous donner les dates, les prochaines dates de ce projet, cher Daniel.
Oui, on joue à Rouen le 29 novembre, avec l'étincelle à l'auditorium du CRR. On joue au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines à Guyancourt, à la scène nationale, le 10 décembre. Et le 8 février, on sera en Dordogne, à Jazz of à Aimé, je ne sais plus. Voilà. Mais je tiens à dire que ce n'est pas un hommage, je déteste les hommages.
Alors, ok, bah, préciser. Préciser, c'est une relecture des chansons de Gainsbourg.
Non, ce n'est même pas une redélecture. En fait, j'ai odieusement utiliser la musique de Gainsbourg pour rendre hommage à mon groupe que j'adore, avec lequel j'avais
alors
déjà
là,
enregistré
d'autres
albums.
Alors là, c'est ce quartet. Vous allez nous
donc
citer
j'ai pioché
les...
des ingrédients dans la musique de Gainsbourg et j'ai rebrodé une musique pour ce groupe et pour le faire sonner et le mettre en valeur.
Et vous allez nous citer les musiciens de ce quartet avec qui vous jouez depuis très longtemps.
Ouais, alors il y a Julien Charlet, je commence par lui parce que c'est celui que je connais depuis le plus longtemps.
Quel batteur,
ça fait 3 albums qu'on fait ensemble et on va en faire un 4e en janvier d'ailleurs, ainsi qu'avec Pierre Durand.
Pierre Durand, le guitariste, alors lui, le blues aussi, ça il connaît bien.
On s'est bien trouvé, c'est vraiment mon alter ego quoi, dans ce groupe. Quoi.
Des fois je l'appelle le John Scofield français, moi, mais bon, ça vous va.
Ouais, mais il fait d'autres choses.
Oui,
il fait vraiment d'autres choses. J'adore Scofield, mais j'adore Pierre, il fait autre chose aussi.
Ben, je l'ai vu faire de la musique africaine avec Jocelyn Méniel, un hommage à Ali Farka Touré, il m'a scotché aussi.
Oui, mais je veux dire, même quand il fait du jazz, c'est vrai qu'il est marqué aussi. Il y a Jérôme Regard sur le disque à la basse électrique, et maintenant c'est Élise Blanchard.
Alors, je ne connais pas cette Élise Blanchard.
Élise, c'est...
Basse électrique aussi.
Moi, je l'ai connue dans l'orchestre de François Janot, elle était toute jeune, elle venait remplacer. Basse électrique aussi. C'est une musicienne qui a vraiment une formation de jazz, mais qui est plutôt dans le circuit pop depuis des années.
D'accord.
Et pas avec n'importe qui, puisqu'elle joue à la fois avec Oumou Sangaré, Philippe Catherine, Mélissa Lavo.
Ah oui.
Donc, et en fait, elle est très contente de faire ce groupe parce que ça lui permet d'improviser sur des musiques qu'elle maîtrise parfaitement, avec lesquelles elle est parfaitement à l'aise, et en plus avec un super batteur, ce qui pourrait...
Bah avec Julien Charlet, tout se passe bien,
voilà,
forcément.
Tout se passe
oui, donc
bien.
Ça, c'est un groupe très précieux. Alors, dans cet album, il y a un invité sur quelques titres, qui est Eric Truffat à la trompette. Est-ce qu'il a fait des concerts avec vous, quelques
Il
fois
a fait quelques concerts,
ouais.
Ouais.
Donc sur 3 titres, hein, si j'ai bien noté.
Absolument.
Alors, les titres que j'ai choisis, ce sont des titres où il ne joue pas, voilà, mais c'est pas parce que j'ai rien contre lui personnellement, mais il se trouve que j'ai choisi des titres où il ne joue pas. C'était quoi l'idée d'ajouter une voix supplémentaire ?
L'idée au départ, c'est que quand j'ai écrit l'arrangement de Bonnie and Clyde, je voulais absolument reprendre un question-réponse. Donc je me suis dit, il faut quelqu'un.
D'accord.
Et puis après, je l'ai mis sur 2 autres morceaux, où ça marchait très bien aussi.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre les chansons de Gainsbourg donc sans paroles, en version instrumentale, mais est-ce qu'en les jouant, on pense au texte ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Pour moi, c'est quasiment... Enfin, il y a des morceaux où c'est des arrangements, il y a des morceaux où c'est quasiment de la recomposition. D'ailleurs, là, on va passer à un arrangement, d'après ce que tu m'as dit.
Alors,
ce sera plutôt quasiment une recomposition.
D'accord.
Mais j'en
parlerai. Alors, justement, on va écouter tout de suite Machin Chose.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Voilà, c'était Machin Chose, une composition de Serge Gainsbourg tirée de l'album de Daniel Zimmermann, L'homme à la tête de chou in Uruguay. Et c'était magnifique cet arrangement. Il a une nouvelle vie, ce morceau, avec vous, Daniel.
Bon, en tout cas, pour moi, il n'était pas question de le reprendre tel quel, ça, c'est sûr.
Non, mais là, il y a un côté blues, là, c'est trippant, ça rentre dans le plexus solaire. On est vraiment dans une ambiance feutrée, au bout de la nuit, bleutée, je ne sais pas. ça sent le whisky et la cigarette.
Oh, ça me va.
Non, magnifique, très 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 beau morceau, très très bien arrangé et superbe groupe. Alors, allez voir ce groupe sur scène. Tiens, j'en profite puisqu'il y a une date que je voudrais signaler aussi d'un concert où apparaîtra Daniel Zimmermann. C'est la semaine prochaine, c'est le 27 novembre au Son de la Terre. C'est mon ami Jacques Vidal qui va rendre hommage à Charles Mingus. Et donc, c'est Daniel Zimmermann qui est au trombone et Pierrick Pedron au sax alto. Donc, il y a un super quintet. Et donc, je vous conseille d'aller au Son de la Terre le 27 novembre. Alors, on va se quitter. Vous avez encore des choses à rajouter sur cet album? Peut-être le titre, parce que le titre, du coup, il y a eu un disque de Gainsbourg qui s'appelait L'homme à la tête de chou. Il y a un morceau qui s'appelle SS in Uruguay qu'on va écouter. Mais en fait, ce morceau SS in Uruguay, c'est un petit peu un mix des deux morceaux, c'est ça?
En fait, pour le morceau qu'on va écouter maintenant, j'ai fait une espèce de mash-up entre deux morceaux. C'est vraiment emblématique du procédé ludique avec lequel j'ai écrit le disque. C'est-à-dire que je suis parti de la mélodie de SS in Uruguay. J'ai incorporé les harmonies de l'homme à tête de chou. Donc deux morceaux différents. J'ai fait des superpositions. Et puis en fait, j'ai brodé, j'ai adapté, j'ai digressé, si j'ose dire. Et ça donne le morceau qui vient maintenant et qui, pour moi, s'appelle comme l'album L'homme à tête de chou in Uruguay.
D'accord, bah c'est parti. On va vraiment l'écouter. Hein. Voilà, on est obligé de chanter ce SS in Uruguay parce que j'avais quand même des choses à vous dire avant de vous quitter. Donc, merci à Daniel Zimmermann pour cette émission de Jazzland.
Merci Lionel.
Et je remercie également Armand à la technique et Madeleine et Salomon pour les génériques et les jingles. Je vous retrouverai à ce micro dans 3 semaines, le samedi 14 décembre. Et en attendant, vous retrouverez Jean-Marc Gélin la semaine prochaine pour une émission consacrée à Jazz Migration avec Antoine Beauce. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver l'émission Lusitania sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.